C'est 10 degrés sur Québec. On a un super de beau vendredi. J'espère que vous en profitez si vous êtes capable. Sur la route, ça commence déjà. Le trafic qui commence toujours un peu plus tôt le vendredi. Je vois que sur Laurentienne, là, dans le bas de la côte, ça commence à être un peu plus achalandé. Aux autres endroits de la grande région de Québec, Tom?
À part ça, sur la 20, donc la rive sud, en direction ouest à la hauteur de Taniata, c'est difficile. Et même chose en direction est. Donc, si vous êtes capable d'éviter le secteur, je vous le conseille. 418-971-1021 si vous avez d'autres enjeux sur les routes.
On va faire confiance à Environnement Canada. On pourrait atteindre un genre de 16 degrés aujourd'hui, donc on serait très gâtés. Pour ce qui est du week-end, ben jusqu'à maintenant, il ne semble pas avoir de pluie de prévu. Quelques nuages pour ce qui est de demain avec un maximum de 15 degrés. Et dimanche, ben, ce sera des nuages avec un maximum de 22. Le député de Jean Talon pour le Parti québécois est en studio, Pascal Paradis. C'est la première fois que je le reçois. Bonjour, M. Paradis.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien. Comment allez-vous après tant de mois de mandat?
Je vais bien. On est au cœur d'une période de 5 semaines de travaux parlementaires. Donc aujourd'hui, c'est une journée qu'on appelle une journée en circonscription.
Ouais.
Où on va s'occuper de nos cas en circonscription, nos dossiers locaux.
Oui, on va en parler d'ailleurs de votre belle circonscription. La différence entre le droit et la politique, est-ce que vous avez noté une grande différence entre le métier d'avocat et le métier de politicien?
Ah, c'est très différent de ce que je faisais avant, parce qu'en plus, c'était un genre de pratique du droit, disons, pas traditionnel. Ouais. Ce que je faisais avant, je suis avocat sans frontières, hein, donc c'est de la coopération internationale, de l'entraide entre juristes de différents ouais. pays.
Et vous deviez toujours apprendre, parce qu'à certains endroits, le droit n'est pas pareil. Là.
C'était fabuleux parce que tu ne vas pas là pour faire les choses à la place du monde. Tu sais, tu vas en Colombie, tu vas au Mozambique, tu ne vas pas là pour faire à la place d'eux, tu vas là pour accompagner les acteurs locaux. Puis là, tu apprends beaucoup de leur façon de faire. Donc moi, j'ai beaucoup appris en Afrique, j'ai beaucoup appris en Amérique latine.
Des choses qu'on aurait dû ramener ici ou pour notre droit à nous?
Ah, bien, il y a tellement d'inspiration partout dans le monde. T'sais, nous, on va partager aussi des choses qu'on sait faire, de l'expertise. C'est pour ça qu'il y a de la collaboration, mais tu apprends énormément là, de tous ces pays-là où je suis allé. Fait qu'aujourd'hui, j'espère que je réussis donc à mettre ça en œuvre, ce que j'ai appris, mais oui, c'est complètement différent comme métier. En fait, là, je pratique pas le droit, je suis là dans l'intérêt public comme politicien pour essayer de faire les meilleures choses possibles pour les citoyens de Jean Talon, mais pour le Québec aussi.
Ouais. Quand vous alliez, exemple, sur le continent africain, là, est-ce que vous enleviez vos yeux d'occidentaux?
Ah, il faut absolument être dans une toute autre approche. Tu n'es pas là pour aller montrer, pour aller expliquer, tu es là pour aller collaborer,
et comprendre.
Partager, comprendre, parce que tu arrives, tu n'es pas dans ton environnement. Donc,
le but, c'est d'en ressortir aussi.
Ben, en fait, vous avez tellement raison, parce que cette job-là, chez Avocats sans frontières, comme dans d'autres organisations de coopération internationale, ta job, c'est d'essayer de faire en sorte que ta job soit inutile dans le futur, que les gens, tous ensemble, on s'améliore, puis qu'on soit capable de faire... T'sais, en réalité, c'était des grands recours pour des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des dossiers de grande envergure, où tu as besoin de savoir qu'est-ce qui se fait de bien ailleurs dans le monde pour essayer qu'on soit tout le monde meilleur ensemble. Fait que forcément... tu apprends beaucoup de choses parce que tu es avec des experts de partout dans le monde qui t'apprennent un peu c'est quoi leurs expériences.
Mais ça change-tu vraiment les choses ou c'est tellement protocolaire, administratif, c'est difficile, c'est des lois internationales qui sont différentes, de la culture. Est-ce que vraiment ça change quelque chose, mis à part savoir ce qui s'y passe?
Non, c'est... Donc la réponse est oui. Oui, il y a beaucoup d'avancées. Oui, il y a beaucoup de choses qui changent. Puis des fois, on est capable de transporter, de faire bouger des montagnes là, parce qu'on se dit c'est impossible. Jamais ces gens-là vont obtenir justice parce que c'est une dictature ou le système de justice va mal. Et on réussit. Puis ça fait partie de mes inspirations en politique parce que c'est souvent, on se fait dire « Ah, la problématique est tellement importante puis c'est tellement difficile ça, on n'y arrivera pas ». Bien, avec de la bonne volonté, puis quand on essaie de collaborer, puis on essaie de trouver ce qui se fait de mieux, notamment ailleurs, bien, ça nous aide aussi à avancer ici au Québec.
On a des enjeux dans la grande région de Québec. Quand vous êtes devenu député, vous saviez que vous allez avoir à faire face à énormément d'adversité avec tous les enjeux qu'il y a. Bon, on demande toujours l'opinion du député, puis parfois, bien, ça peut être une opinion qui est très populaire versus une opinion qui est peut-être moins populaire. Est-ce que ça a été long, ça, à vous adapter? La critique, parce que quand vous étiez dans votre métier en tant qu'homme d'affaires, mais aussi avocat sans frontières, la critique, il n'y en avait pas tant. Là. Normalement, vous étiez là pour aider les les gens. Aujourd'hui, vous êtes encore là pour aider les gens, mais vous devez prendre des décisions et avoir des opinions, des fois, qui plaisent ou déplaisent. La critique, vous prenez ça comment?
Bien, il y en avait aussi dans mes anciennes fonctions, parce que ce qu'on fait, c'était rare qu'il y avait l'unanimité. T'sais, notamment, on se retrouvait souvent devant les tribunaux, puis là, tu as quelqu'un qui argumente le contraire de ce que toi, tu argumentes, parce qu'il pense que c'est ça la chose qu'on devrait faire. Mais là, aujourd'hui, vous avez raison. C'est très différent. On est en politique, puis là, il y a des orientations philosophiques, il y a des orientations politiques différentes. Moi, je pense que ça fait partie du job. Les premières fois là, que tu te fais griller en mêlée de presse, je veux dire, là, tu te dis « aïe aïe », parce que j'en faisais des médias avant, ouais. Mais j'étais comme à titre d'expert. Là, tu es confronté, puis les médias font leur travail. Ils veulent
c'était
avoir
plus
des
le
réponses
contenu
à des
que
questions.
Le contenant. Finalement, c'est plus aux professionnels que vous étiez confronté qu'aux personnels. Peut-être la politique aussi vient avec l'image de la personne. Pascal Paradis aussi qui se fait critiquer, lui.
Oui, il y a ça, mais je pense qu'il y a moyen de rester sur le plan des idées. Puis de s'attarder au contenu. En tout cas, moi, je me suis donné ça comme devoir dans mon premier discours à l'Assemblée nationale, là, quand j'ai été à ma première fois à l'Assemblée nationale, t'es invité à parler, puis moi, j'ai dit ce que j'aimerais faire, c'est faire de la politique avec une certaine hauteur, c'est-à-dire, on va être d'accord que des fois, on ne sera pas d'accord, mais on va s'attarder au fond. Puis j'espère que je vais m'en tenir à ce que j'ai dit. Alors là, puis vous pouvez aller voir mes publications, tout ça, est-ce que je suis dans la politique où on s'attaque aux personnes, où on s'attaque aux idées, puis même le mot attaquer dans le sens, c'est pas ça, là. C'est d'avoir une vision constructive des choses. Fait que puis il y en a beaucoup de ça en politique. Hein. Les gens s'attardent beaucoup à la joute politique, notamment à la période de questions. Mais la réalité, c'est qu'il y en a beaucoup de la collaboration transpartisane, puis on avance. Là. Au moment où on se parle, je vous disais qu'on est en session parlementaire, là, puis il y a des projets de loi qui sont en train d'avancer. Il y en a qui font pas l'unanimité, mais il y en a où on discute puis on essaie tout le monde de faire la bonne chose pour le Québec.
Est-ce que les partis politiques travaillent constamment pour être réélus ou encore pour être élus ou vous avez l'impression que vous travaillez vraiment pour la population? Parce qu'on constate, puis je vais vous expliquer ma question, c'est qu'on constate qu'il semble avoir une fracture entre ce que les citoyens voudraient versus ce que les politiciens et leur équipe veulent, tout dépendant de la couleur. On a l'impression des fois qu'à l'Assemblée nationale, il y a 125 cerveaux. On aimerait que les 125 cerveaux opèrent, mais il y a 3-4 équipes qui sont présentes, qui ont leurs propres idées. Puis ça fait en sorte que des fois, les citoyens disent « Attends un peu, là, moi, c'est pas dans mes priorités. Là. J'ai pas demandé ça. J'ai pas demandé aux représentants du peuple à l'Assemblée nationale de parler de telle ou telle affaire. Ça me touche pas dans mon quotidien. Votre impression à vous? Travaillez-vous encore pour... Ben là, je ne vais pas vous demander ça, vous de même. Les politiciens, est-ce qu'ils travaillent encore pour le peuple ou ils travaillent pour leur parti en général?
Alors, je suis convaincu que l'intérêt public est la principale motivation de mes collègues.
Sincèrement? En tout cas, tous les collègues du parti confondus.
Moi, je vais vous parler de mon parti. Mm-hmm. Moi, quand on m'a approché cet été, une chose que je disais,
par la CAQ ou le PQ?
Le Parti québécois. Le Parti québécois. La question, c'était, moi, faire de l'analyse politique, tu sais, que si tu dis telle chose, qu'est-ce que vont penser les gens, puis est-ce qu'on va aller gagner des points de pourcentage? Je dis, moi, c'est pas ça qui me tente. Puis on me dit, non, regarde, nous, à chaque matin, quand on se lève, c'est l'intérêt public, puis comment on monte les meilleures propositions pour les gens, puis c'est vraiment ça qu'on fait jour après jour. Puis...
Même si ça va à l'encontre de la majorité du désir du peuple?
Oui, mais là, vous amenez quelque chose de très intéressant.
Vous savez où est-ce que je m'en vais, hein?
Ben oui, je vous vois venir.
Ouais, ouais.
Mais ce que les gens veulent, c'est une partie importante de l'équation. Et moi, je peux vous dire que juste avant de venir ici, là, j'étais avec mes collègues au bureau de Jean Talon. Puis je disais, qu'est-ce qu'on reçoit actuellement? Qu'est-ce que les gens disent? De quoi les gens nous parlent? Puis ça, c'est à tous les jours, tu sais. Donc, on est très branchés sur ce que les gens nous disent. C'est super important. Puis ça, je l'ai dit aux gens, là. Vous voulez avoir un impact, là? Écrivez à votre député, écrivez au ministre, écrivez au gouvernement, parce que ça compte, on écoute. Puis ça compte. Mais il y a plein d'autres critères aussi qu'il faut considérer. D'abord, quand on dit ce que les gens veulent, je suis pas mal certain que vous allez admettre avec moi que c'est pas facile aussi de savoir exactement les gens disent quoi. Parce que vous allez me parler d'un sujet, bien là, est-ce qu'on parle des citoyens de Jean Talon? Est-ce qu'on parle des citoyens de la région de Québec? Mm-hmm. Est-ce qu'on parle des citoyens de l'ensemble du Québec? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, ça aussi, faut bien mesurer, parce que c'est rare que c'est blanc et noir. Mais il y a plein d'autres facteurs aussi.
Mais un parti peut se sentir à l'aise d'aller à l'encontre de la majorité des citoyens? Parce qu'à mes yeux, à moi, quand vous êtes député ou quand vous êtes maire, vous êtes la personne qui a été mise en place pour prendre les meilleures décisions. Ouais. Vous êtes la personne, vous êtes le représentant du peuple. Je ne peux pas comprendre comment les députés de l'Assemblée nationale peuvent être à l'aise quand ils se prononcent sur des enjeux qui touchent Québec. Je ne peux pas comprendre comment ces gens-là peuvent être à l'aise alors qu'ils disent « Ben nous, c'est oui le tramway, non le troisième lien », alors qu'il y a moins de monde qui veulent le tramway que de monde qui veulent le troisième lien. Je me dis « Mais est-ce que ces gens-là nous représentent encore? » Puis là, je comprends vos circonscriptions et tout ça, mais c'est une majorité des gens dans certains partis qui veulent le tramway, des fois à n'importe quel prix, puis une minorité des politiciens qui veulent le troisième lien.
C'est très important ce que vous dites, puis évidemment, là, les politiciens, on regarde ça, on écoute, on est attentif à ça. Mais là, par exemple, vous nous amenez donc sur la question du transport collectif, puis du troisième lien. Bien, vous dites qu'il faut être à l'écoute des gens. Moi, je suis le représentant de la circonscription de Jean Talon. Puis dans la circonscription de Jean Talon, bien que ce ne soit pas l'unanimité, là, j'en ai rencontré de tous les gens, de toutes les couleurs puis de tous les avis, mais ce que j'ai reçu de commentaires généralement et ce que les sondages démontrent de manière constante depuis longtemps, c'est un appui assez constant au transport collectif et plus précisément au projet de tramway. Et c'est un désaccord assez constant ouais. avec le troisième lien.
Mais puis, à n'importe quel
point. Jean Talon, c'est une circonscription importante sur ce débat-là, parce que la fameuse tête des ponts, ouais. c'est dans Jean Talon. Ouais. Tous les chemins qui mènent vers la tête des ponts actuellement, ouais. tu sais, le Robert Bourassa, les autoroutes Robert uh-huh. Bourassa, Henri IV, Duplessis, Boulevard Laurier, chemin Saint-Louis, ça passe tout par Jean Talon. Donc, je suis à l'écoute de la population de Jean Talon, mais j'écoute aussi ce que les gens disent dans la région de Québec. C'est un facteur. Il y en a d'autres.
Qu'est-ce que vous allez mettre en priorité? Donc, quand on fait la politique, ça va être ce qu'on entend dans notre comté, dans notre circonscription, ou ce qu'on entend au Québec?
Bien, tout ça compte. Tout ça compte.
La priorité pour quelqu'un qui est élu à quelque part de bien précis.
Bien, là, est-ce que vous parlez d'un enjeu en particulier?
Bien, ou... de vous, admettons, dans Jean Talon. Si vous dites que la priorité des gens de Jean Talon, c'est un tramway et pas nécessairement un troisième lien, est-ce que vous allez défendre plutôt cette position-là parce que vous êtes au sein de Jean Talon, vous représentez Jean Talon, ou vous allez regarder Québec en entier, puis si, mettons, pour la capitale nationale, ce qui est prioritaire, c'est pas de tramway et un troisième lien, admettons que ce serait ça?
Tous ces facteurs-là comptent. Moi, comme député de Jean Talon, je regarde tout ça. Alors là, il se trouve que la population de Jean Talon est assez en accord avec la position de mon parti sur ces deux questions-là que vous connaissez. Bon, d'ailleurs, comme tous les partis à la...
Mais les sondages spécifiquement de ouais. Jean Talon sur les deux enjeux, que ce soit le tramway ou le troisième lien, ils ont été faits quand?
Bien, c'est des sondages centre de Québec, là. Puis ça, là, le dernier, je n'ai pas les dates, là, ouais. mais notamment, moi, j'étais en élection partielle il n'y a pas longtemps, alors c'est sûr qu'on regardait avec attention ces chiffres-là. Mais ça, c'est un élément, mais il y en a un autre. Sur le projet... Tu sais, sur la fluidité de la circulation entre les deux rives, là, tout le monde reconnaît qu'il y a des enjeux actuellement. Ah, ouais. Je vous le dis. Ouais. Ben oui. Mm-hmm. Hey, moi, c'est Jean Talon, là. Je veux dire, on les voit, les bouchons, là. Tout le monde les voit, les bouchons de circulation. Mais dans les études qui ont été déposées sur le troisième lien, il y avait plein d'éléments intéressants qui démontraient qu'il y a des solutions vraiment efficaces, à moindre coût, qui serait applicable dans les prochaines années, par exemple l'instauration d'une septième voie dynamique sur le pont Pierre-Laporte, la maximisation de l'utilisation du pont de Québec. Il n'y a aucune étude qui démontre actuellement que ces deux ponts-là sont des infrastructures en fin de vie, parce que c'est beaucoup ce qu'on entend.
Il n'y a aucune étude. Je veux dire, quand on parle avec des ingénieurs, que ce soit des ingénieurs du ministère des Transports, que ce soit des ingénieurs qui agissent à titre au privé maintenant, qui étaient pour le ministère des Transports, ils ne donnent pas encore 100 ans au pont de Québec, là. T'sais, il ne donne pas encore 100 ans au pont de Québec. Ben, je vais vous poser une question qui peut être un peu cruelle, mais advenant le cas où on a une problématique de plusieurs semaines sur le pont Pierre-Laporte, quel est le plan B pour les citoyens de Québec et de Lévis? Et quel est le plan B pour tous ceux qui doivent transiter par Québec pour aller, que ce soit au Saguenay ou en Beauce ou encore dans notre belle Gaspésie ou encore sur la côte nord? C'est quoi? Quel est le plan B, advenant le cas d'une fermeture du pont Pierre-Laporte? Il y en a seulement qu'un plan B, je vais vous le dire. Il y a aucun bon sens, ce plan B-là. Ça serait quoi votre plan B, advenant le cas où on n'a pas de troisième lien, pour ce qui est de la fermeture du pont Pierre-Laporte? C'est un enjeu de sécurité. C'est quoi votre plan B?
Mais c'est parce que là, vous me parlez d'une situation hypothétique qui je vous le dis, n'a pas été démontré comme étant un risque qui est imminent. Vous me parlez quelque chose de vraiment hypothétique. Oui. Ce qu'on a actuellement, vous savez, là, vous souvenez la ministre Geneviève Guilbeault, là, vous souvenez, il y a un an. Alors, puis moi, je comprends que les gens sont fâchés parce qu'on a un gouvernement qui a monté aussi ce projet-là, qui est allé deux fois en élection générale sur ce projet-là, puis finalement qui a changé d'idée, qui a dit « on ne le fera pas ». Je peux comprendre la frustration des gens, mais elle est arrivée, vous vous souvenez, avec un paquet de documents qu'elle avait fait tomber sur une table.
Ça c'était n'importe quoi, là.
Ça avait fait « boum ». Ouais, non, mais attendez. Là,
ça, c'était du visuel. Là.
Pour lancer l'étude de ce projet-là, ce qui est malheureux, c'est que c'était une présentation PowerPoint. Vous savez, c'est quoi une présentation PowerPoint? Là? De 10 pages avec les édifices de Québec qui n'étaient même pas au bon endroit. Et on a créé des attentes dans la population là-dessus.
On
mais
comprend.
Quand on est arrivé avec les vraies études, elles démontraient quoi? Qu'il y avait des solutions avec les infrastructures actuelles pour désengorger, pour régler une grande partie des problèmes de circulation. Et ça démontrait que le besoin n'est pas démontré pour une autre infrastructure.
Oui, mais il y a, alors, ça, aussi comme... une question de logique, M. Paradis. Vous êtes député de Jean Talon pour le Parti québécois. Vous avez étalé votre jeu, puis je vous le félicite de l'avoir fait. Là. C'est très responsable de votre part de dire « bon, mais moi, je suis contre un troisième lien. » Ça, puis vous restez là-dessus, c'est bien correct, c'est de vos affaires. Mais je me souviens, il y a de ça quelques temps, il y a un gars qui avait décidé d'aller jouer de la guitare au-dessus du pont Pierre-Laporte, et ça a pris un genre de 8, 9, 10 heures le sortir. Il y avait des bouchons à grandeur, autant sur la rive sud que sur la rive nord. Les policiers étaient débordés, les ambulances ne pouvaient pas passer. S'il y a un problème avec un enfant en Beauce, on l'amène directement à Sainte-Foy, et là, il y avait une problématique. Heureusement, rien n'arrivait de grave, mais ça nous prend un plan B. Les camions ne peuvent pas passer par le pont de Québec. Si jamais il y a, je ne sais pas moi, un camion d'essence qui se renverse, il y a un incendie, le bitume brûle, le pont est fermé pendant quelques jours. Le plan B pour les camions, c'est quoi le plan?
Je comprends.
Non, vous comprenez pas?
Oui, je comprends ce que vous me dites, mais je vais vous retourner la question d'une autre façon en vous disant, comme personne, vous m'avez posé au début la question, c'est de l'intérêt public, comment on prend nos décisions, puis c'est quoi les facteurs? Là, vous savez qu'on a beaucoup discuté d'autres sujets actuellement, Nordvolt, ces infrastructures-là.
Si
et ce qu'on s'est dit, là, vous savez, là, il y a plein de ministres qui se sont promenés avec un livre orange qui dit « How big things get done ». C'est quoi les leçons quand on parle de méga projets d'infrastructure?
Oui.
Puis il y a une étude récente de HEC Montréal qui a analysé les grands projets d'infrastructure au Québec. La leçon numéro un, c'est quand on se lance dans ces projets-là, ça prend de très, très, très solides données scientifiques, démographiques, techniques, financières.
Mais
donc,
pourquoi?
comme politicien, est-ce que vous voulez, parce que...
Mais pourquoi les grandes villes en Amérique ont toutes des voies de contournement, puis nous, notre région, on n'en méritera pas de voies de contournement si on a une problématique? Je vous le leur demande pour une dernière fois, après ça, je vais arrêter de vous achaler. C'est quoi le plan B s'il y a une fermeture du pont Pierre-Laporte pendant quelques heures?
Bien, moi, ce que je vous dis, c'est où sont les études sérieuses qui démontrent que ça, c'est un problème auquel on n'a pas de solution actuellement.
Je vais vous le donner, le plan B. Le plan B, c'est le pont La Violette à Trois-Rivières. C'est un détour de 200 km, ce qui n'aurait pas de bon sens. Puis là, dites-moi pas, on va avoir les automobilistes puis les camionneurs sur le pont de Québec parce que les camions ne peuvent pas passer sur le pont de Québec. On est fourrés. Quand on parle aux services d'urgence, qui ne sont pas des gens qui ont fait des baccalauréats, des doctorats en urbanisme puis en façon de bâtir une route, ils disent tout... Quand le pont Pierre-Laporte est bouchonné, on est dans un problème. Puis la population de Québec, la région de Québec, on n'est pas en sécurité. Le plan B, c'est un détour de 200 km. Et ça, pour notre belle grande région, c'est inacceptable. On a le droit d'avoir une voie de contournement. On a la chance d'avoir le pont de l'île d'Orléans qui va être rebâti. En fait, on va en refaire un neuf au coût de quelques milliards de dollars. Why not, coconut? Il nous reste juste un petit bout à faire de l'autre côté, M. Paradis.
Montrez-moi des données qui, comme politicien, là, comme personne qui est là pour l'intérêt public, on dit là, c'est le temps. Parce que là, en 2018, l'évaluation pour l'infrastructure dont vous parlez, c'était 10 milliards de dollars. Là, en 2024, on parle de quoi? 10, 15, 20, 30 milliards de dollars? Je pose la question aux gens. Est-ce que vous voulez qu'on prenne ces décisions-là sur la base de données suffisantes pour dire « je vais investir vos taxes et vos impôts là-dedans » ou vous voulez qu'on le fasse sur la base de... Oui, mais il y a peut-être ce problème-là, parce que le problème que vous mentionnez, il faut encore que ce soit ça le problème, puis qu'il y a un besoin qui nécessite une solution Y. Pour l'instant, ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas démontré. Il n'y a pas d'études sérieuses qui démontrent ça. Puis nous, comme politiciens, il faut qu'on prenne les meilleures décisions sur la base des meilleures données. C'est ce que tout le monde nous dit de faire. Puis là, on parle de dizaines de milliards de dollars de l'argent des gens qui nous écoutent. Sur quelle base on va prendre ces décisions-là? Et c'est ce qu'on dit, d'ailleurs, du gouvernement. C'est qu'il a trimballé les électeurs d'un côté et de l'autre. Il a fait des campagnes électorales sur la base de promesses qui ont créé des attentes, mais il n'y avait pas les études, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour engager la population là-dessus. Et nous, c'est ça qu'on dit au Parti québécois. Soyons sérieux, soyons honnêtes, soyons transparents sur ce qu'on dit, sur ce qu'on veut faire. Parlons avec intelligence aux gens. Puis c'est ça que j'essaie de faire aujourd'hui, vous dire notre position. Là,
ben c'est parce que vous
fiez
sur,
elle est basée
études.
Là-dessus.
Fiez sur des études, puis dans ces études-là, il y a des gens qui ont réalisé des études, qui ont travaillé comme lobbyistes du gouvernement, qui sont des activistes, ils sont pro-transport en commun. Savez-vous quoi? Je suis le premier qui est pro-transport en commun. Je veux du bon transport en commun. Mmh. Mais ces gens-là détestent au départ le projet sur lequel ils travaillent. On peut déjà prévoir qu'en bout de ligne, ils vont nous dire ben, il n'y a rien qui prouve que si le pont Pierre-Laporte est en problématique, ben, on va mettre la population des gens de Québec en danger. Mais nous, là, quand on jase avec les services d'urgence, ils nous le disent, on a besoin des hôpitaux chaque bord. Puis je peux pas croire qu'à un moment donné, où les gens, les politiciens peuvent pas voir ça par eux-mêmes. Le plan B, c'est le pont La Violette à Trois-Rivières. Ça n'a pas de bon sens que les citoyens de Québec acceptent ça. Sam Ahmad, qui était pour le Parti libéral dans le temps, aux alentours de 2010-2011, a dit « On va faire un nouveau pont pour les gens de l'île d'Orléans. Ça va être à peu près 400 millions de dollars. » On est rendu à quoi? 2,7 milliards de dollars? T'sais, les décisions, on doit les prendre ici, maintenant, pas dans 10 ans, dans 20 ans. Nos enfants auront besoin certainement d'une voie de contournement. Pourquoi pas le faire là, maintenant? Pensez à eux autres, pensez à la sécurité des gens de Québec. Mais vous me l'avez
le pont de l'île d'Orléans, oui. Des études très sérieuses, des données financières, des données scientifiques. Et là, on voit que le deuxième soumissionnaire, c'était des centaines de millions de plus. On a des gens qui n'ont que ça pour aller chez eux. C'est une partie du grenier de la ville de Québec. C'est là que nos denrées alimentaires viennent de l'île d'Orléans.
On a besoin de ce lien-là.
Il y a du tourisme. C'est un joyau touristique du Québec. Et là, voyez-vous, ça, bon, nous, ce qu'on dit, c'est pourquoi ça a pris tant de temps, pourquoi le prix a grimpé comme ça de 400 millions à 2,7. Il y a de sérieuses questions. Puis peut-être qu'encore une fois, c'est la procrastination de ce gouvernement. Parce que là, en matière, tu sais, il y a une chose qui va nous unir là-dessus. Là. Peu importe, là. Quelle infrastructure, quelle solution pour l'avenir structurant de la région de Québec vous choisissez? Il ne s'est rien passé depuis 2018. Rien. Il n'y a rien qui a abouti. Puis on a un gouvernement qui, encore une fois, qui nous a trimballé d'un côté et de l'autre, qui a promis ceci, promis cela. Puis l'élection dans Jean Talon, on perd le lendemain, oups, on fait renaître un pays, qu'on a mis à mort juste avant... juste après les dernières élections générales.
Je m'excuse, donc... le lapsus était incroyable, par exemple, dans cette phrase-là.
Mais vous n'étiez pas en politique à ce moment-là, mais moi, je les vois aller, les politiciens, puis c'est constamment, quand le chaos arrive, c'est « OK, ben on arrive en sauveur, puis là, ben notre cote qu'on va faire à la télé en disant, ben savez-vous quoi, on a besoin du pont de l'île d'Orléans, puis ça presse, puis c'est 2,7, puis ce sera ça. » C'est tout le temps ça, moi, que je vois depuis des décennies, depuis que je suis la politique. On dirait que c'est dur pour un politicien d'être proactif parce que c'est moins vendeur au niveau médiatique. Les gens vont peut-être moins entendre parler que si le chaos arrive, et là, le policier arrive en sauveur en disant « ben on y va, ça prend un pont pour les gens de l'île d'Orléans », et là, tout le monde parle de ça, ça parle de ça dans l'actualité, la méchante radio de Québec parle de ça, puis les policiers, ben ils doivent venir répondre aux questions, puis parfois, ben sont un peu dans l'embarras.
On travaille pas sur le moins ouais, on travaille plus assez dans le moins sexy, c'est ça que tu veux dire? Ben, en travaillant en amont, puis en n'ayant pas de promesses électorales qui permettent d'être réélu.
Si tout ce que sa maman a dit en 2011 concernant le pont de l'île d'Orléans était vrai, ça coûtait 400 millions. Là, maintenant, on est rendu à 2,7 milliards. Quand on a parlé à un homme d'affaires qui est un ingénieur qui, lui, postule sur des gros chantiers à Montréal, il nous a dit la raison pour laquelle il y a des différences, des fois, de 700 millions dans les soumissions, c'est que des fois, c'est tellement compliqué de gérer ça avec le gouvernement qu'ils se prennent un montant de sécurité, une contingence qui est énorme. Ils n'ont pas besoin de vous la dire parce que ils vous disent, ben nous, on va mettre 2,7 milliards. Là, ça va coûter 2,7 milliards, mais l'autre est 700 millions plus loin. Puis c'est parce que lui, il se prend une plus grande contingence, parce qu'on ne sait pas dans un an, deux ans, trois ans, comment va coûter le prix de la ferraille, exemple. T'sais, il y a quelque chose de logique à ça, mais plus on attend, même si on sait qu'on va avoir un troisième lien à faire, parce que dans 50 ans, le pont de Québec sera probablement plus là, on va se le dire, là. Non?
Vous dites que le pont de Québec sera plus là?
Dans 50 ans, on va peut-être le laisser là, mais ça va être un endroit pour piétons, ça va être un endroit pour les vélos, mais est-ce qu'on va encore faire passer le train là-dessus?
Mais vous dites ça, mais allez voir le paquet d'études qui ont été réalisées là-dessus. Il n'y en a aucune actuellement qui dit que ce sont des infrastructures en fin de vie, que ce sont des infrastructures risquées, que ce sont des infrastructures qui vont tomber. Au contraire, on dit qu'on peut encore les maximiser, qu'on peut les entretenir, qu'on peut les maximiser. C'est, encore une fois, c'est très important de regarder ce que les expertises disent de manière constante sur ces sujets-là. Puis je pense que nous, comme politiciens, c'est là-dessus qu'on doit se baser pour prendre les meilleures décisions possibles. Oui, en considérant ce que les gens disent, ce que les gens veulent, c'est important, mais en considérant ça parce que c'est les deniers des impôts, des taxes des Québécoises et des Québécois dont on parle, puis il faut faire les meilleures choses. Puis ce que vous dites vient aussi, m'interpelle, parce que vous dites il faut être proactif, mais il faut sortir. On ne peut pas avoir les yeux rivés sur les sondages. Okay? Je vous le dis, c'est important de tenir compte de l'opinion des gens, mais si on fait ce genre de décision-là uniquement en regardant les sondages, est-ce que c'est la bonne façon de procéder? Pas sûr. Il faut se dire, on se fixe des choses, on est en dialogue avec les citoyens, mais il faut prévoir longtemps à l'avance, il faut planifier, il faut prévoir. Ça fait partie des plus grandes leçons apprises aussi, qu'il faut vraiment avoir le maximum d'informations avant pour être plus efficace quand arrive le temps de livrer l'infrastructure, de livrer les résultats. Et là, actuellement, c'est pas ce qu'on voit, je pense, actuellement. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas grand-chose qui avance depuis 2018 dans la région.
Le tramway, on en est rendu où, M. Paradis?
Bien, le tramway, vous le savez, ça a été un dossier, là aussi, où le gouvernement a dit une chose et a fait autre chose. Le dossier a été enlevé des mains de la Ville de Québec, a été enlevé pour étude, a été envoyé pour étude à CDPQ Infra à Montréal, qui étudie ça actuellement.
Est-ce que c'est difficile là, pour le PQ de se placer, de se positionner, de commenter, puis de donner un peu de vision parce que vous êtes trois en ce moment dans le parti? C'est-tu ça qui est extrêmement difficile pour nous apporter? Parce que souvent, on va voir bon, des prises de parole, mais on aime ça dans l'opposition, avoir des constats clairs, des visées, des envies, des enjeux qui bon, sont sur la table, puis nous, on travaille là-dessus. Mais là, vous êtes trois, vous êtes arrivés, on vous a mis une pile de dossiers sur le bureau, on vous a dit, vous êtes un intelligent, vous êtes avocat, fait que vous allez nous éplucher ça comme il faut. Est-ce que c'est ça, la contrainte en ce moment au PQ?
Bon, ben d'abord, nous, on est quatre maintenant, depuis mon élection. Alors, ça a accru notre capacité de travail.
Mais
oui,
mais compter quelqu'un, je m'excuse. Mais... Voyez-vous, vous n'êtes
mais...
pas souvent.
Mais c'est vrai qu'on est seulement quatre. Donc, c'est une équipe restreinte à l'Assemblée nationale. Mais néanmoins, c'est des gens extrêmement engagés, super compétents et qui...
Ça, c'est sûr, mais ça ne fait pas le nombre. Hein? Ça, c'est...
Oui, mais nous, le choix qu'on a fait, c'est que quand on prend position, quand on propose quelque chose, puis là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est très constructif. Nous, ce n'est pas juste de critiquer, puis tout ça. On propose, on amène des solutions, on amène des idées. Regardez nos communications. Nous, on a décidé que les affaires de 140 caractères, puis trois lignes, c'était pas ça, qu'on voulait communiquer clairement en faisant appel à l'intelligence des gens. Bien, ça fait en sorte que, oui, ça demande beaucoup de rigueur, ça demande beaucoup de travail. Et je pense que sur la très grande majorité des enjeux qui préoccupent les Québécois actuellement, on est là, on questionne constructivement l'action gouvernementale et on propose, ce qui fait que, ben oui, actuellement, même si on est quatre, je pense qu'on réussit à être là sur la plupart des enjeux.
On se questionnait beaucoup, Yannick et moi, quand tu es revenu dans l'actualité, la question du référendum, hein, la question référendaire. Mmh. Est-ce que rapporter ça, on se dit, OK, là, soit ils sont très... ils sont très honnêtes dans leur position. Ils nous exposent leur vrai jeu, leur vrai plan de match. Puis d'un autre côté, on dit pourquoi aller là? Côté marketing et communication du parti, là, ils sont en train d'échapper ceux qui se tournaient tranquillement vers le PQ en flac, leur envoyer un 2x4 dans le visage en disant ben nous, on ramène le référendum dans la question publique. Pourquoi avoir fait ça? C'est quoi la réelle raison? Vous savez que ça vous a coûté quelques plumes?
Parce que ce qu'on disait, c'est. Ben, en fait, moi, ce que j'ai dit, c'est que c'est très courageux de le dire d'avance. Plutôt que de nous le
dire
cacher,
après,
d'être élu, puis après
ça,
à revenir avec le
c'est
référendum.
C'est authentique, là, ça, on vous le donnait.
Mais exact. Moi, j'ai trouvé ça bien que Paul Saint-Pierre Plamondon le fasse, démontre son jeu d'avance avant les prochaines élections.
Honnête.
Mais en même temps, on se demande, côté stratégie, c'est-tu vraiment la meilleure des stratégies?
Bien, parce qu'on ne fait pas de la politique. Vous avez utilisé les mots, je pense, marketing, publicité. Oui. On fait... c'est pas pour ça qu'on est là. On est là parce que nous, on a un projet. Et on pense que pour les Québécoises et les Québécois, c'est le temps de prendre cette décision-là. Et qu'ils et elles vont vouloir prendre cette décision-là? C'est une question, vous avez dit, authenticité. Nous, on a décidé qu'on allait être authentique, qu'on allait faire appel à l'intelligence des gens. Nous avons cette intention ferme. Ben,
mais si, on est là, si on est là pour... pas aller là, est-ce qu'ils sont intelligents tout de même? Ou...
Oui, mais regardez ce qui se passe actuellement au Québec. Regardez à quel point des gens dont on pensait jamais qu'ils allaient prêter une oreille, aujourd'hui prêtent l'oreille. Remarquez comment les jeunes embarquent maintenant. Paul Saint-Pierre Plamondon fait une tournée des universités, des cégeps. Là. C'est à coût de 200-300, puis il y en a autant à l'extérieur.
Mais ça a toujours été ça pour les le PQ. Gens... Ça a toujours été, ben, le PQ a toujours été extrêmement populaire auprès des jeunes. J'étais à Cardinal-Leroy à Québec, moi, à faire mon secondaire. Et tout le monde parlait du Parti québécois, tout le monde parlait de souveraineté. Là.
Oui,
et
mais
ça fait, je sais que ça va vous surprendre, mais ça fait plus de 20 ans.
Vous savez, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je me considère tellement privilégié de travailler avec Paul Saint-Pierre Plamondon, puis Joël Arsenault et Pascal Bérubé, mais... Paul Saint-Pierre Plamondon mentionne souvent, quand lui est arrivé, là, à chaque entrevue, là, s'il était venu ici, là, à ce ben, moment-là, il disait, ça commençait par « Oui, mais là, le PQ est en train de mourir. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Puis comment vous allez survivre jusqu'au... »
Il est venu avec nous autres il y a
eu ça, mais il a été authentique.
Ouais. Il, est venu,
il était authentique. Il dit, c'est ça la solution pour le Québec, parce que regardez ce qui se passe dans tous les domaines actuellement. Regardez comment est géré le Canada. On envoie 82 milliards de notre argent au fédéral. Regardez les services que vous avez pour ça. Regardez où le Canada est en train de s'en aller dans la plupart des politiques qui sont de son apanage. Voyez comment il traite les provinces.
Mais pour rétablir l'équilibre, on reçoit de la péréquation depuis des décennies et des décennies. Là.
Ah, mais ça, tout le monde parle tout le temps de la péréquation. La péréquation, c'est un facteur parmi des dizaines. Et quand on regarde, par exemple, l'élimination, combien on sauverait en éliminant les chevauchements. Là, les deux paliers de gouvernement. Là, un gouvernement qui a pas, qui gère pas un hôpital, puis qui a des centaines, des milliers de fonctionnaires en santé, puis dans tous les domaines de compétences du Québec. Ça élimine toute la question de la péréquation. Puis quand tu regardes ça, c'est 82 milliards de nos fonds qui s'en vont à Ottawa. Imaginez rapatrier ça ici. Là, ça va être le principal boom économique qu'on va avoir vu dans l'époque moderne du Québec.
Pensez-vous que François Legault est encore dans la séparation du Québec, même s'il ne crie pas sous tous les toits?
C'est un nationaliste maintenant, mais il a longtemps été un souverainiste.
Ben, c'est ça. Pensez-vous que c'est encore en lui avec ce qu'il a fait dans les derniers mois avec Ottawa pour essayer de réclamer ses dûs?
Moi, je ne commencerai pas à me mettre... Ouais, on en parlait tout à l'heure. Fait que je ne commencerai pas à prêter des intentions pour essayer de me mettre dans la tête ou dans le cœur de François Legault. Mais il y a une chose. Je peux vous dire que les finances du Québec, d'un Québec indépendant qu'on a présenté quelques semaines après mon élection, appuyé par 6 économistes indépendants, ben c'était basé sur la méthodologie établie par François Legault à l'époque où il était au Parti québécois. Donc, pour lui, c'était difficile de contester la méthodologie parce que c'était extrêmement conservateur comme méthode de calcul. On ne faisait aucune hypothèse qui serait pas correspondante à l'état des chiffres aujourd'hui. Et ça démontrait non seulement la viabilité économique d'un Québec souverain, mais qu'un Québec souverain serait une puissance mondiale.
Vous avez appris vite la politique, M. Paradis.
Mais vous avez vraiment cette impression-là, parce que, bon, on reçoit une péréquation, je sais que ça vous achale de l'entendre, vous dites, bon, mais quand nous, on va rentrer en place, on va faire telle ou telle affaire, mais il va falloir mettre des gens dehors. Ces gens-là qui travaillent pour le fédéral au Québec, il va falloir les mettre dehors. Parce qu'il y a des doublons, nécessairement. On ne peut pas les garder avec nous. Il y aura énormément de pertes d'emplois. Vous pourrez embarquer là-dedans. J'entendais Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a de ça quelques temps, qui disait peut-être même un dollar québécois. On sortirait de l'argent canadien, puis on aurait notre propre dollar. Je veux dire, tous vos fonds de pension, est-ce que tous vos fonds de pension sont en dollars canadiens? Est-ce que vous êtes prêt à mettre ça en dollars québécois?
Ça, sur le dollar, on verra. On vous le dit. On a un plan très bien déterminé jusqu'aux prochaines élections, là, jusqu'en 2026. Là, on a sorti un document Québec sur les finances d'un Québec souverain. Ensuite, on va répondre à ce qui s'appelle l'initiative du siècle. Là. Vous savez, là, ce qui est la politique actuelle du Canada, là, que le Canada ait 100 millions de population en 2100. Puis les gens disent non, ça, c'est une théorie. Ils sont en train d'appliquer ça là, actuellement. À 1 million de nouvelles personnes qui arrivent au Canada chaque année, calculées. En 2100, on est rendu à 100 millions, puis là, un pays post-national, tu sais, où... Bon, nous, on va répondre à ça. On va dire, voici ce qu'on voit pour le Québec. Après ça, on va établir c'est quoi la citoyenneté québécoise. Puis après ça, on va avoir le livre bleu sur l'indépendance du Québec. Donc, on va répondre à beaucoup de questions. Alors, on va continuer, nous, dans cette authenticité, dans cette franchise, pour dire, voici comment on voit les choses, puis voici ce qu'on vous propose. Ça s'en vient sur la question du dollar et d'autres. Mais vous parlez des pensions. On a démontré dans ce document-là qu'un Québec souverain va être gagnant sur la question des pensions de vieillesse. Fait que là, on va arrêter de faire peur aux Québécois puis aux Québécoises, puis on va regarder les choses en face. Puis là, il faut calculer c'est quoi les risques et les désavantages de rester au Canada. Il faut les comparer aussi aux avantages qu'on aurait à être un pays indépendant.
Ça, et c'est ça que le document fait. Lucide, mais ça, j'ai lu.
Allez regarder ce document-là. Ouais, ça vaut la peine.
J'ai lu une partie de ce document-là, puis je me posais une question, parce que je pense que ce n'est pas intégré à votre document. La dette canadienne, on fait quoi avec? Parce que quand on part, à un moment donné, il faut payer nos dettes aussi.
Tout est calculé dans ce document-là sur qu'il va y avoir des règles qui s'appliquent basées sur les expériences internationales. Parce que, soit dit en passant, il y en a qui pensent que l'indépendance du Québec, ça serait comme aller à l'inverse du sens de l'histoire actuellement. Bien, regardez la carte du monde il y a 100 ans, la carte du monde il y a 50 ans, la carte du monde aujourd'hui. Vous allez noter quoi? Plein de nouveaux pays, plein de nations qui veulent simplement faire ce qu'une nation normale fait, c'est-à-dire, bien, moi, je veux contrôler mes taxes, mes impôts, puis ce qu'on fait avec. Je veux contrôler mes relations internationales. Je veux être un pays normal. Ouais. Mais... Alors, le partage de la dette, ça ne sera pas la première fois que ça va se faire. C'est calculé. C'est dans le document et c'est très conservateur. Encore une fois, là, on n'a pas fait des hypothèses yéyées. On a dit,
on va garder le même panier de services au Québec, qui est déjà assez garni.
On va avoir une plus grande capacité de livrer les services essentiels parce qu'on va rapatrier 82 milliards. Puis après ça, on calcule ce qu'il faut assumer, évidemment, dans les dépenses qu'on va devoir assumer, qui étaient jusqu'à maintenant assumées par le gouvernement fédéral. Mais là, il y a un paquet d'affaires complètement inutiles. Tu sais, je vais vous demander à vous, là, c'est quand la dernière fois que vous avez eu un service direct, vous, d'une entité fédérale? Pensez-y, là.
C'est une bonne question.
Levez la main. Pascal,
le moins possible
Yannick,
que j'ai à faire
Thomas,
avec le gouvernement.
Les auditeurs qui nous écoutent, là, c'est quand la dernière fois? Le passeport. Puis là, on va vous demander combien de mois en retard vous l'avez eu, votre passeport.
Ouais.
Parce que les services essentiels sont livrés par le Québec. Et là, d'abord, là, nous autres, on a un pays, vous savez qu'on a un pays qui marche encore avec une constitution de 1867. Mm-hmm.
Ouais.
1867, là, l'époque coloniale. Ouais. Mais ça prévoyait à l'époque que les gouvernements, ce qu'on appelle les provinces, hein, puis d'ailleurs c'est un mot qui veut dire territoire soumis, mais donc les provinces et le fédéral avaient chacun leur champ de compétences et leur budget. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral est dans à peu près toutes les affaires du Québec.
Je comprends tout ça, puis je sais qu'au gouvernement fédéral, ça ne fonctionne pas tout le temps nécessairement bien, mais c'est la même chose au Québec, même affaire. Quand on veut des services, des fois, c'est très, très difficile. L'accès à la santé, entre autres, mais ça, c'est un autre sujet. Je veux parler avec vous du transport collectif. Moi, je vous dévoile mon jeu. Je suis pour le transport collectif, mais pas à n'importe quel prix. Je trouve que on doit avoir un transport collectif, mais les gens doivent payer leur juste part, puis nous, la société, qui ne prenons pas le transport collectif, bien, le transport collectif, on doit payer une petite partie aussi là-dessus. Mais des histoires de tramway à 13 milliards de dollars, moi, je n'embarquerai jamais là-dedans. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'il faut toujours injecter plus d'argent ou ce que la vice-première ministre a demandé aux sociétés de transport, c'est-à-dire de faire face à l'Audi et faire le ménage à l'intérieur de leurs organisations, ça a du bon sens?
Oui. En même temps, ici, le réseau de transport de la capitale nous le dit. Le ménage est fait. Il n'y a pas de gras.
Maud Mercier Larouche.
Mais c'est surtout... Puis ça, je vais pas aller plus loin là-dessus parce que c'est vraiment une question de juridiction des villes, des municipalités puis des sociétés de transport.
Mais en même temps, si vous êtes au pouvoir, vous allez devoir vous mouiller, là.
Bien... Oui, mais regardez, nous, on a été assez clairs là-dessus.
Parce que la RTC va vous demander de l'argent.
Oui, mais les sociétés de transport et les villes disent toutes la même chose. On veut s'asseoir, on veut collaborer, on veut se parler. Bon, là, je dirais que je pense que j'ai entendu ce matin que la ministre les avait convoqués à une réunion
lundi.
Tant mieux, parce qu'il faut se parler. Mais là, regardez le message unanime qui est lancé partout au Québec. Pas un maire, pas deux maires, pas une société de transport. Toutes disent... On n'a pas d'interlocuteur actuellement. On se fait dire « débrouillez-vous ». Puis le gouvernement dit « oui, j'ai beaucoup investi ». Mais oui, il a beaucoup investi pendant la pandémie parce qu'il y avait une aide spéciale. Mais ce que les gens disent, c'est qu'actuellement, là, on se dirige vers un mur, c'est-à-dire qu'il y a des besoins importants, puis on veut développer. Vous l'avez dit vous-même, l'avenir passe par des réseaux de transport collectifs structurants. Ouais. Qui vont nous permettre de diminuer la pression sur les
ça,
autres infrastructures.
Moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit que ça nous prend un réseau de transport fonctionnel.
Bon, ben, c'est ça. Ouais. Mais je pense que c'est super important. Ouais. Parce que
mais
je
jusqu'à
comprends...
quel prix? Quand est-ce qu'on s'arrête? Parce que Maude Mercier-Larouche, qui est une élue, qui est responsable du RTC, a dit effectivement, il n'y a pas de gras. Quelques jours plus tard, on apprend qu'il y a un buffet à 32 200 $ pour un événement du RTC. Moi, j'appelle ça un peu de gras. On a acheté aussi au RTC des tasses pour faire de la promotion autour de 30 000 $. Et là, ce qu'on apprend via radio Canada, c'est que les sociétés de transport en commun du Québec dépensent davantage en frais de gestion et d'administration que celles des autres provinces. C'est une étude qui a été réalisée par les HEC Montréal. Donc, ils nous disent encore qu'au Québec, quand on est dans une société de transport, on a encore du gras pas pire. Puis l'administration coûte beaucoup plus cher. Il y a plus de chefs que de soldats, là. Ou bon. D'Indiens, mettons. Il y a plus de chefs que d'Indiens. Ça se dit-tu encore? Plus de chefs que de soldats.
ce que les sociétés de transport, ce que les villes disent, c'est ça prend un interlocuteur et ça prend de la collaboration parce que l'avenir passe en grande partie par ça. Puis vous le savez, la plupart des grandes villes, ailleurs dans le monde, en Europe notamment...
Mais on n'a pas le même climat.
Même aux États-Unis... Oui, mais le climat...
On n'a pas le même climat, on n'a pas la même démographie. Le Québec est fait un peu bizarre.
Oui, mais Yannick, vous savez, on a déjà eu un tramway ici jusque dans les années 50, 60. Là, c'était il y a 60 ans, puis ça marchait. Ouais, là,
j'en veux
ça montait les côtes.
J'en veux un si on accepte en ville de faire des gratte-ciels où les gens vont être en hauteur puis ils vont pouvoir faire tout dans un contexte de 15 minutes. Ils vont pouvoir se promener, mais j'ai pas de problème avec ça. S'ils veulent se mouvoir de Grande Allée jusqu'à Laurier, puis ça passe en dessous, puis ça passe au-dessus, moi, je m'en fous. Ce que je veux, c'est qu'on crée une densité à cet endroit-là. Les gens de Charlebourg, pour la plupart, n'utilisent pas le transport en commun. C'est 8 % de la population de Québec qui utilise le transport en commun. Puis on est rendu avec des arrêts d'autobus à 1,3 million. Ça arrête quand l'argent qu'on investit dans le transport en commun? Ça plaît pas au monde.
Ce qui est proposé, là, puis c'était ça le projet qui était sur la table, c'est-à-dire qu'on a un nouveau réseau de transport collectif structurant. C'est-à-dire qui permet aussi de faire de l'urbanisme en même temps, qui permet de changer les habitudes, qui est en complémentarité. Puis c'est pas une chasse à l'automobile, c'est de dire ça prend la complémentarité. Des fois, il y a des trajets, ça se passe en automobile. Des fois, il y a des trajets, ça peut se faire à vélo. Des fois, il y a des trajets, ça va se faire en tramway. Des fois, ça va se faire en autobus.
Mais c'est pas envers vous, là, mais il y a une guerre à l'automobile actuellement, que ce soit à Montréal ou à Québec. On veut chasser l'automobile des villes.
Ben,
si
écoutez,
vous
ne
l'avez pas remarqué,
c'est pas...
on peut aller se promener ensemble, je vais aller vous montrer bien des endroits.
Nous, c'est pas du tout ça, c'est de doter des villes comme Québec vraiment d'une offre de transport collectif et de transport actif qui nous amène ailleurs. Puis les gens qui ont vu ces villes-là de la même envergure, de la même taille que Québec, par exemple, en Europe, les gens, Yannick, vous le savez, veulent pas prendre leur auto parce qu'ils disent « J'ai un maudit bon transport en commun qui fonctionne bien. »
Y a-t-il autant de vent? Y a-t-il autant de pluie? Y a-t-il autant de neige?
Ben, on n'est pas la seule ville nordique de la planète.
Parfait. Trouvez-moi une qui est exactement comme nous au niveau de la topographie, là, puis qui a le même climat. Puis dites-moi, c'est quoi la meilleure façon de faire, de mettre les gens dans les autobus ou dans les tramways? J'embarque.
Ben, dans les études qui ont mené à la solution tramway, ici, on parle par exemple des villes en Norvège, des villes dans les pays scandinaves qui ont un climat similaire, des villes de la même taille que Québec, où il y a ce système de transport puis qui a vraiment changé les habitudes que les gens adorent. Donc, c'est d'arriver là. Puis moi, je suis confiant qu'un jour, on va arriver là, on va combiner toute une série de modes de transport, mais les gens vont adopter de plus en plus celui du transport collectif qu'on va choisir.
Mais ça fait 40 ans, j'attends ça, puis il n'y a pas plus que 8 % de la population qui veulent le prendre. Je répète, je suis pro-transport en commun, mais à un moment donné, ces gens-là ne veulent pas payer
leur juste part. Yannick,
vous souvenez? Moi, je dois subventionner chacun de leurs passages, puis je me rends compte qu'au RTC, entre autres, il y a encore du gras. Je me rends compte qu'on se paye du luxe en ayant des abris d'autobus à 1,3. Ça n'arrête plus. Ils nous demandent toujours plus d'argent.
Est-ce que vous vous souvenez, Yannick, du film Fields of Dream?
Ben oui.
Avec Kevin Costner?
Ben oui.
If you built it, they will come.
Oui, c'est ça. Mais ça fait 40 ans que les politiciens nous le disent.
Tu sais... quand l'infrastructure, elle est là, quand les gens voient à quel point ça transforme les habitudes, à quel point c'est efficace, les gens l'adoptent. Et c'est ça, il faut aller vers là, à Québec. Vous avez raison, ça fait longtemps qu'on en parle. Puis là, il y en avait une solution qui est en train d'avancer. Là, il y avait un demi-milliard de nos taxes, de nos impôts qui ont été investis. Et là, on a tout stoppé ça, on a mis ça sur la glace et on a envoyé ça à CDPQ. Tu sais, il y a des coûts, puis ça engendre des retards, des problèmes. Il faut aller de l'avant parce que ça s'est passé dans plusieurs villes du monde et ça a transformé la façon dont les gens se déplacent. Puis les gens l'aiment.
Pascal Paradis, député de Jean Talon pour le Parti québécois. Je dois d'ailleurs vous dire que j'ai rencontré énormément de gens de Jean Talon, puis je savais que j'allais avoir une entrevue avec vous. J'ai jasé avec ces gens-là, puis pour la plupart, ils sont très satisfaits de votre travail jusqu'à maintenant. Et j'ai comme question, c'est quoi vous faites comme travail pour les gens de Jean Talon actuellement? Aujourd'hui, c'est une journée dans votre comté. Ça ressemble à quoi vos journées dans Jean Talon? Puis c'est quoi vous voulez changer dans cette circonscription-là?
Ah, c'est des journées que je trouve vraiment très intéressantes parce que on parle aux citoyens, on voit ce qui se passe au jour le jour, c'est quoi les problèmes quotidiens des gens. Un des sujets dont on a beaucoup parlé dernièrement, c'est la question des garderies. Les gens à Québec veulent des places en CPE et moi, j'ai dans la circonscription de Jean Talon des garderies qui existent, qui sont dans le privé, qui disent « moi, je veux changer pour être un CPE, pour avoir plus d'accès à plus de gens ». Puis ils ne sont pas capables.
Change de bâtisse, en fait.
Non, ils peuvent garder la même bâtisse. C'est que c'est une transformation du mode de gestion. Donc, tu passes d'une garderie privée à une garderie subventionnée CPE qui te permet d'offrir des places donc au tarif de CPE et qui te permet aussi d'intégrer le réseau avec toutes ces bonnes pratiques, etc. Ça, vous savez, là, c'est un réseau qui est applaudi partout dans le monde.
Oui.
Je veux dire, c'est nommé comme un exemple, une innovation québécoise qui a vraiment... aider les femmes à prendre encore plus leur place sur le marché du travail, à faire en sorte que tu vas confier ton enfant le matin à la garderie puis tu sais que ça va être une maudite bonne journée avec beaucoup d'apprentissage. Je vous vois hocher la tête, là. Mm-hmm. Je veux dire, tout le monde le sait.
Ah, on peut être fier
de ça.
Puis là, tu as un gouvernement tu sais, qui est arrivé en place puis qui a dit, moi, je vais transformer 54 000 places tu sais, de privées non subventionnées en subventionnées puis je vais favoriser le modèle CPE. Là, jusqu'à maintenant, là, c'est 8 800 places seulement qui ont été transformés en subventionnés, mais seulement 200 en CPE. Fait que, à un moment donné, ce que tu veux, c'est que c'est un gouvernement qui s'en tienne à ce qu'il a dit.
Au départ.
Puis là, ce qu'il a dit, c'est « je vais transformer en CPE ». Puis donc, moi, ça donne que j'ai des gens, puis c'est des groupes extraordinaires, là, des éducatrices super engagées avec des groupes de parents qui disent « moi, je vais offrir ce milieu de vie-là à plus d'enfants », puis ils ne sont pas capables. Alors, vous voyez, ça, c'est des genres de dossiers qu'on travaille. Puis ça, bien, des fois, ça se on en parle comme ça publiquement, mais c'est aussi beaucoup de travail de fond qui n'est pas nécessairement à profil élevé pour dire bien, comment on va y arriver. Fait qu'il y a ça, j'ai beaucoup... vous savez, Jean Talon, c'est le comté où il y a le plus d'immigrés. Oui.
On va en parler, mais juste pour les garderies, là, vous faites comment pour avancer ce type de dossier-là dans votre circonscription? Vous devez nécessairement parler au ministre?
Bien oui, tu parles aux ministres qui sont impliqués dans ces dossiers-là. Tu vois qu'est-ce qui bloque, pourquoi ça ne marche pas. C'est quand le prochain appel, pourquoi il passe pas. Puis là, tu apprends, par exemple, qu'il y a des critères d'exclusion, puis que là, dans Jean Talon, ben c'est pas un territoire qui est privilégié, mais tu apprends aussi que c'est ça, il y en a pas beaucoup des places. Puis là, des fois,
Et vous faites la transition entre ce que vous apprenez du gouvernement et la personne qui vous laisse informer, c'est ça?
Ici, la personne qui vous laisse... Bien, là, ici, c'est qu'en réalité, c'est des gens qui ont ce projet-là. Là, par exemple, ici, je peux vous les nommer parce qu'on est sortis publiquement. Là. Donc, la garderie s'appelle Villa Montessori. Elle est dans Jean Talon. Puis là, ça fait 3 ans qu'ils travaillent là-dessus. Donc là, tu continues à travailler, mais à un moment donné, ils disent, bien là, M. Paradis, si vous voulez, on est prêt à sortir publiquement là-dessus. Donc là, on est sortis publiquement. Puis on a dit, bien écoutez, c'est un enjeu dans Jean Talon, mais qui est rattaché à un enjeu national.
Oui.
Donc ça, c'en est un, mais il y a beaucoup de gens qui t'appellent parce qu'ils ont des difficultés d'accès à certains services publics, qui ont besoin d'aide. C'est parfois des gens qui ont de la difficulté à s'en sortir parce que administrativement, c'est difficile. C'est des nouveaux arrivants, par exemple. Si j'allais vous dire que Jean Talon... Ouais. Jean Talon, c'est la circonscription à l'est de Montréal où il y a le plus de nouveaux arrivants.
Vous les logez où, hein?
Bien, c'est un enjeu. C'est un enjeu. Donc, quand on parle, vous voyez, là, de la crise du logement,
ouais. Bien,
nous, comme députés, une de nos jobs, on en parlait tout à l'heure au début de l'entrevue, une de nos jobs, c'est de s'assurer qu'on comprend ce que ça veut dire chez nous. Puis là, bien, on le voit qu'actuellement, on fait une promesse d'une réussite de l'aventure québécoise à des gens. On dit, viens travailler au Québec, viens chez nous. Donc, tu vas avoir une bonne job qui correspond à ce que tu as comme diplôme puis que tu as comme expérience. tu vas être bien logé, puis tu vas avoir accès à des services. Puis si tu ne parles pas le français, bien, on va t'aider à te franciser. Puis actuellement, on n'y arrive pas dans aucun de ces domaines-là. Je suis consterné de voir des files devant les banques alimentaires dans Jean Talon aussi, avec beaucoup de nouveaux arrivants et beaucoup de nouveaux arrivants qui justement, n'arrivent pas à se loger parce que elle existe dans Jean Talon. D'ailleurs, dans les régions de Québec, elle existe, cette crise-là.
Bien, quand c'est, on passe à côté difficile. De la bouchée généreuse, c'est d'une tristesse.
Bien, vous le voyez, là, il y a la bouchée généreuse, mais il y en a d'autres. Là. Bon, puis ça, c'est ça, c'est une autre partie de notre job. On a beaucoup de... J'ai plus d'une centaine d'organisations de la société civile dans Jean Talon qui font un travail absolument formidable pour aider les aînés, les jeunes, les nouveaux arrivants, les personnes qui ont besoin d'aide, notamment en matière de sécurité alimentaire. Et donc, on leur donne un coup de main, bien sûr. On les aide financièrement, mais des fois aussi, c'est d'être là, c'est de faire rayonner leurs actions, c'est de leur donner un coup de main pour régler tel ou tel problème. Donc, il y a beaucoup de ça dans la vie d'un député. On en parle moins. Et moi, on me dit, tu sais, t'as fait les grandes choses avec Avocats sans frontières, comment tu vas trouver ça? Puis je disais tout le temps, je pense que je vais beaucoup aimer ça.
Ben,
et je vous confirme que c'est tellement intéressant ce travail-là. Là.
Puis c'est pas
les deux pieds dans la réalité du monde.
Ouais. Puis vous arrivez dans un moment où, je veux dire, pour le PQ actuellement, c'est très prospère. Ce que je voulais vous dire tantôt, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon est venu s'asseoir avec nous autres. Puis il y a de ça quelques mois, hein, puis j'avais calé la shot comme quoi il allait probablement devenir le prochain premier ministre du Québec. D'autres collègues dans les médias m'ont dit « t'étais un fou d'avoir dit ça ». Et quelques semaines plus tard, ça a commencé à monter dans les sondages. Puis j'imagine que vous, il y a une frénésie au Parti québécois, mais c'est très fragile. Quand on commence à être populaire, c'est là où on commence le plus à être observé. Là.
Oui, puis Paul Saint-Pierre Plamondon l'a mentionné. Donc, il y a une pression médiatique, une attention médiatique. Mais en même temps, je vous le disais tout à l'heure, c'est pas ça qu'on regarde, nous, pour faire notre travail. Bien sûr, c'est une tape dans le dos. Les gens ont l'air de dire on apprécie votre travail, puis on aime ce que vous faites, puis on aime ce que vous proposez. Bon, tant mieux, mais nous, on a un plan de match. Et quand on arrive le matin, puis tu sais, on a des réunions le matin, là, puis là, on regarde, puis sur quoi on travaille, puis là, c'est quoi nos enjeux à long terme, nos projets. Puis nous, c'est l'intérêt public, c'est notre projet ultime que vous connaissez, dont on a parlé tout à l'heure, puis on dit, mais nous, on est concentrés là-dessus, puis qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut travailler de mieux dans l'intérêt public. Puis moi, je trouve... Nous, on a cette opportunité-là, comme personne élue, de pouvoir faire ce travail-là.
Y a-t-il des candidats élus ou non qui commencent à s'intéresser au PQ? Émilie Lessard-Terrien, mettons?
Ah non, mais si vous savez...
C'est un achaleux en passant.
Non, mais là, si vous savez, c'est un sujet que je... Hein, puis je vous le dis tout de go, là, vous voyez que je suis assez transparent. Oui. Puis que...
Parce que quand
j'essaie
on est
de pas trop avoir la langue de bois.
Quand on est populaire, les gens commencent à s'intéresser. Ah, ben ça se pourrait que je trouve une job au PQ. Émilie Lessard-Terrien, est-ce que vous avez eu des...
Ah non, je rentrerai pas là-dessus. Là, puis vous savez, là, elle vient de prendre des décisions dans sa vie, tout ça. Puis je suis pas dans ces affaires-là, moi, comme député de Jean Talon. Mais bon, oui, c'est sûr que quand on sort dans la rue, puis ça, les gens nous en parlent, puis les gens nous disent, ben il y a de l'intérêt, puis tout ça. Mais bon, ça, c'est... Ça, c'est pas des affaires dans lesquelles là, je suis directement impliqué.
Avez-vous encore des communications avec la CAQ? Est-ce qu'on vous parle et on veut travailler sur des dossiers avec vous? Ou est-ce qu'on vous a appelé pour vous dire une chance qu'on vous a pas pris finalement ou une chance que vous n'êtes pas venu avec nous? C'est fini ce saga-là? Ou?
Mais non, mais écoutez, là, les gens du gouvernement, là, on travaille tous les jours. Là. Je vous le mentionnais tout à l'heure, là, il y a des enjeux, on travaille tous les partis ensemble. Par exemple, j'étais la semaine dernière à Picogan. Picogan, c'est juste un petit peu au nord d'Amos, parce qu'on allait déposer un rapport sur le suivi de la question des enfants autochtones disparus ou décédés. Quelque chose d'incroyable. Là. Imaginez, là, vous êtes malade, là, votre enfant est malade, vous allez l'emmener à l'hôpital. Il est amené à l'hôpital, puis là, vous le voyez plus, vous le revoyez plus jamais. Disparu. Ça s'est passé au Québec. Alors, on est allé rendre compte, puis là, c'était le ministre Lafrenière, qui était là, qui allait déposer le rapport avec tout le comité qui est établi. Puis là, les quatre parties, on était ensemble. Donc, bien sûr, on jase, puis sur plein de dossiers, on continue à travailler ensemble. Donc, c'est, encore une fois, c'est une autre partie de notre travail qui est moins connue.
Ils vous en veulent pas?
On revient pas vraiment sur cette histoire-là aujourd'hui. Je pense que moi, je maintiens tout ce que j'ai dit à l'époque. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on est ailleurs.
Est-ce que Joël Boutin, vous avez contacté quand il y a eu la transition pour travailler en collaboration? Elle est, est partie fâchée aussi.
C'est le dossier qui était entamé.
Est-ce que vous avez eu de l'aide de cette femme-là? Ou...
On a eu une transition ordonnée, on a eu une rencontre
comme
officielle avec Joël.
Là,
On s'est parlé de ce dont on parlait tout à l'heure, les dossiers de comté, quelle organisation elle a appuyé, etc. Et incidemment, j'étais avec Joël hier soir. On était au gala qui soulignait le 25e anniversaire d'une fabuleuse organisation de Jean Talon. Puis ça me fait plaisir de le mentionner. Ça s'appelle La Baratte. Sécurité alimentaire, mais aussi réinsertion sociale, aide à l'accueil.
Un très bel organisme.
Ils sont fabuleux. Puis là, hier, on était là. Puis Joël les a appuyés dans son ancienne vie de député et continue à les appuyer maintenant dans l'entreprise privée. Puis on était ensemble, puis on jasait. Puis c'était très intéressant de jaser, justement, elle comme ancienne députée de la circonscription, puis moi comme nouveau député.
On doit se quitter. Ça a été une belle jasette de 55 minutes, M. Paradis. Je savais qu'on allait jaser pas mal, puis on a passé à peu près trois sujets que je voulais aborder avec vous. Fait que vous n'aurez pas le choix de revenir. Il y a, dans le brainstorm qu'on a fait, dans les questions qu'on voulait vous poser, je sais que j'aurais pas de réponse, mais je vais vous la poser pareil. Advenant le cas où on arrive avec un gouvernement du Parti québécois, Pascal Paradis voudrait être ministre de...
Ah, mais non, là, j'embarque jamais là-dedans, parce qu'on en parle. Non, c'est, ça, c'est pas
Est-ce
un sujet.
Est-ce que c'est officiellement la justice quand on a été avocat?
La plupart du temps, les ministres de la justice, c'est souvent des anciens avocats.
Ah non, mais là, écoutez, si vous saviez à quel point ça, c'est un non-sujet, puis jamais j'embarquais là-dedans. Là, je vous l'ai dit, j'ai pas la langue de bois, mais jamais. Mais parce qu'on n'est pas là, tu sais, il y a rien, il y a personne qui tient rien pour acquis. On va travailler très dur jusqu'aux élections, on ne tient rien pour acquis. Mais là, vous connaissez mes dossiers actuellement. Là, j'en ai une dizaine. C'est ça.
Toujours un plaisir. Merci beaucoup d'être passé. Pascal Paradis, député de Jean Talon pour le Parti québécois. Je vous souhaite de passer un bon week-end.
Merci à tous les trois. Bonne fin de semaine.
Bye-bye. Au revoir. Ciao.